Hello, hello, c'est Eno Kitano. Bienvenue dans Masculinité quoi, une émission où on se pose des questions sur la masculinité. Ce podcast est né de la mise en forme des interrogations qui ont traversé des groupes de réflexion sur la masculinité et les rapports hommes-femmes sur Saint-Nazaire, Barbe Jaune de la Maison du Peuple et le groupe Tegato. Chaque émission abordera un thème différent et sera diffusée le troisième mardi du mois à 13h sur JetFM et à retrouver en podcast sur Internet. Avant de présenter le thème de cette deuxième émission, petit retour sur la première. Elle portait sur la complicité masculine. J'ai cité dans cette émission les travaux de Daniel Welser-Lang, en passant à côté de faits importants le concernant. Une auditrice avisée et érudite, l'incroyable Spack 2000 de l'émission Bain de Friture, à retrouver tous les quatrièmes mardis du mois à 17h, n'oubliez pas, a porté à ma connaissance les accusations portées contre lui. Je vous lis ici un extrait d'un article publié sur le site de l'AVFT, Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail. Le 22 novembre 2004, nous apprenions par un texte publié sur EFL, liste de diffusion des études féministes de l'équipe Simone Sagesse, Toulouse, que Daniel Welser-Lang était en première position pour être nommé professeur de sociologie, fléché genre, par une commission universitaire qui se réunit mardi 30 novembre. De nombreuses personnes et institutions savent que l'essentiel est tu, caché, nié. À plusieurs reprises, Daniel Welser-Lang a été accusé d'avoir agressé sexuellement des étudiantes sous sa responsabilité pédagogique. Il a également été mis en cause pour des pratiques déontologiquement inacceptables. Les personnes victimes de Daniel Welser-Lang ne peuvent pas porter plainte de crainte légitime de représailles. L'une d'entre elles a exprimé sa peur en disant « Il est partout, dans toutes les commissions. Il reçoit des financements d'AFNE pour les projets de recherche. J'ai l'impression de m'attaquer à un empire. » Nous respectons leurs décisions. Elles n'enlèvent rien à la réalité des agissements que ces personnes ont toutefois dénoncés auprès des fonctionnaires de l'Université de Toulouse. Nous avons rencontré, ensemble ou séparés, certaines de ces femmes. Nous ne pouvons donc légalement, politiquement et moralement rester silencieuses et participer à la perpétuation de cette impunité qui peut mettre en danger d'autres étudiantes. Nous taire serait cautionner ces violences et mépriser celles qui ont eu le courage de les dévoiler. La page Wikipédia de Daniel Welser-Lang rapporte les autres mobilisations de chercheurs et chercheuses universitaires et d'associations de défense des femmes contre ces nominations à des postes de responsabilité dans des universités françaises en 2015 et 2017. Je mettrai sur la page de l'émission des liens vers différentes sources pour que vous puissiez vous informer. Ceci montre que dans les milieux universitaires, militants ou engagés, les hommes ne se comportent pas mieux qu'ailleurs et que des hommes se présentant comme des alliés des femmes et ouverts aux idées du féminisme peuvent se révéler être des prédateurs et profiter de cette image d'allié pour paraître inoffensifs et tisser une relation toxique avec leurs victimes. Au cours de nos parcours, nous sommes nombreux et nombreuses à nous être retrouvés confrontés à ce fait et n'oublions pas que les agresseurs, c'est nous, ce sont des hommes de nos familles, de nos amis, et tous les autres. Pour le thème de ce second épisode de Masculinité quoi, nous ouvrons sur un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Celui de la figure du guerrier dans la fiction, et plus particulièrement dans la fiction jeunesse. Comme vous le savez peut-être, je suis né en 1981, et j'ai été biberonné à la culture TV de l'époque, aux bandes dessinées et aux mangas. Devenu adulte, j'ai porté un regard critique sur les histoires qui m'avaient passionné en tant que jeune garçon. Je vais donc vous parler aujourd'hui de quelques-unes de ses œuvres qui mettaient en scène une figure archétypale, celle du guerrier, et de comment ces récits de fiction participent au conditionnement des jeunes garçons et les mettent sur les chemins de la fabrique des hommes. En seconde partie de l'émission, on écoutera l'interview du jeune à ce sujet. Il nous éclairera sur ces questions de manière actuelle, car les années 80, c'est tellement loin. Du plus loin que je me souvienne, le téléviseur familial a toujours trôné dans le salon. Au début de ma mémoire, nous vivions avec ma mère, mon beau-père, ma sœur et mon frère qui venaient de naître dans un pavillon de banlieue dortoir. Le tout est teinté de la nostalgie de l'enfance aux couleurs des films Super 8. C'est dans ce décor que deux premières figures de guerriers vont fasciner le petit garçon de 3 ans que j'étais, Xor et Musclor. Ces deux programmes télévisés présentent les mêmes ingrédients fondamentaux. Le héros est un homme surpuissant, possédant une identité secrète. voué à un destin exceptionnel et qui protège le monde contre une horde d'horribles monstres qui veulent le détruire. Chaque épisode dure environ 25 minutes et voit systématiquement le héros vaincre ses adversaires en utilisant la force et la violence physique sur fond de musique épique. J'insiste ici sur le côté complètement manichéen du bien contre le mal. Il arrive que les protagonistes du bien les appellent les méchants. Dans les deux séries, il s'agit principalement de créatures humanoïdes hybrides entre l'humain et l'animal, voire la machine. Les méchants ne présentent pas d'ambiguïté et sont mauvais par essence.
Sûr que la sorcière ne pourra pas s'évader de la perle ?
D'autant plus sûr que j'ai expédié la perle sur la montagne au serpent. Et loin du château des ombres, la sorcière perd ses pouvoirs. La perle est en train de se nourrir de son énergie. Lorsqu'elle aura tout absorbé, la sorcière fera à tout jamais partie de la drague aux perles. Et tous ses pouvoirs seront enfin à moi !
Ces méchants sont le reflet inversé du groupe des gentils et possèdent des qualités exactement inverses. Ils sont laids, stupides, pervers, cupides et constituent donc de parfaits faire-valoir pour mettre les gentils en valeur.
Alors que se passe-t-il ?
Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant.
Un méchant ? Où est-il ?
Je suis le méchant et je veux tuer la gentille.
Sir Conoid, le turbo animal venu de l'espace mammouth.
Mais pourquoi me veut-il du mal?
Parce que c'est un méchant.
Mais pourquoi moi?
Parce que t'es une gentille.
C'est bien évidemment au gentil que je me suis identifié, et plus particulièrement à la figure du héros masculin. Enfant de parents divorcés, je n'ai rencontré mon père que vers mes 5 ans. Cette absence a peut-être renforcé l'attachement que j'ai eu pour ces figures ultra viriles. Comme elle, j'ai opté pour l'utilisation de la force et de la violence pour régler mes problèmes. Je me souviens assez précisément de mes années de maternelle. Les récréations ont été le théâtre des guerres que j'ai menées contre mon horrible ennemi, Remiji, qui était mon rival dans la conquête amoureuse de Neliji. Nos représentations, nos jeux et nos vies émotionnelles trouvaient dans la fiction jeunesse des incarnations pour l'expression de nos désirs et pulsions. En tant que garçons, nous étions des guerriers qui devaient montrer leur force et leur domination pour obtenir l'attention des filles qui étaient des princesses. Belles, mais faibles, qu'il fallait sauver des griffes du dragon, ou au moins protéger. Cette représentation des femmes correspondait elle aussi aux places qu'elles occupent dans ces fictions. Elles se retrouvaient souvent placées comme un simple enjeu de l'histoire, comme dans Ken le Survivant, où la rivalité amoureuse est le motif de la princesse à sauver, est le moteur principal de l'intrigue, sans que Julia n'y soit présente ou actrice. Quand elles sont présentes à chaque épisode, elles sont en général de simples faire-valoir du héros qu'elles admirent. L'action reste pour les hommes. Autant dire que dans la cour, on organisait des batailles rangées en bandes rivales de petits couillus, ponctuant nos coups de poing et coups de pied du nom des attaques des héros de nos programmes télévisés préférés. En parler aujourd'hui me fait sourire, mais tout cela était tout à fait sérieux pour l'enfant que j'étais. À l'époque, je ne me suis même pas posé la question des modèles auxquels je m'identifiais, et ils ont contribué à forger mon premier idéal masculin auquel je devais ressembler, celui d'un homme fort et dominant. Beaucoup, beaucoup d'autres héros guerriers suivront ces premières figures tutélaires. Je ne saurais bien évidemment les citer toutes tant elles pullulent dans la fiction jeunesse et au-delà. La surreprésentation de cette figure masculine dans la fiction montre la centralité du récit guerrier dans la structuration des hommes et à quel point les rapports de domination revêtent de l'importance dans les relations qu'ils ont entre eux d'une part et avec leur environnement d'autre part. Dans le premier Masculiniquois, sur la complicité masculine, nous avions décrit comment l'intériorisation des stéréotypes de genre rend les inégalités de genre plus normales et acceptables. La masculinité n'est pas une identité innée, mais plutôt le résultat des interactions de l'individu avec son environnement social. Si l'on accepte que la masculinité soit une formation que reçoit le garçon, il est logique qu'elle repose sur des outils contenant des instructions et des modèles. Il me semble que le récit archétypal du héros guerrier soit un des outils de la construction masculine. On le retrouve dans la mythologie dès le développement de l'écriture dans la Haute Antiquité. L'épopée de Gilgamesh contient les mêmes éléments que nombre de fictions jeunesse. Le héros guerrier, courageux, surpuissant et beau. L'origine miraculeuse, ici il s'agit d'un demi-dieu. Le manichéisme avec des ennemis monstrueux et démoniaques. L'amitié virile. La conquête amoureuse comme récompense des victoires. Tout au long de leur histoire, les hommes se sont transmis ces mythes et récits mettant en scène des figures de héros guerriers. En les transmettant à leurs jeunes fils, les hommes leur indiquaient quelle serait leur place dans la société s'ils utilisaient la force pour arriver à leur fin. Ils pourraient assurer leur domination sur les autres hommes et femmes, imposer leur volonté et leurs désirs aux autres, s'octroyer les meilleures choses de la vie et en jouir en toute quiétude. Cette promesse de réussite à travers le modèle de virilité guerrière peut aussi être perçue comme un instrument servant à faire accepter dès le plus jeune âge aux garçons leur destinée guerrière. En effet, de l'Antiquité à notre époque, les conflits armés entre les États-nations pour le contrôle des territoires et de leurs ressources sont une réalité. Il a toujours été nécessaire pour les personnes de pouvoir d'envoyer au front des guerriers résolus, prêts à risquer leur vie pour devenir des héros, avec parfois, à la clé, la promesse d'une vie éternelle dans un au-delà paradisiaque. Aujourd'hui, ce modèle représentatif de la domination masculine et du patriarcat est critiqué. Je ne connais pas aussi bien les fictions jeunesse récentes que celles qui ont accompagné mon enfance et mon adolescence. Nous avons la chance d'avoir un jeune représentatif des nouvelles générations et des temps plus actuels qui a accepté de se livrer à l'exercice de l'interview.
Nous voilà de retour sur le plateau de Masculiniquoi pour la fameuse interview du jeune. On ne le présente plus, 16 ans, lycéen, nazérien. Il est là pour nous éclairer sur là où en sont les jeunes hommes aujourd'hui. Bonjour le jeune.
Bonjour. Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Nickel.
Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir du coup pour cette seconde émission.
Parfait, pas
de soucis. Tu es prêt au jeu de l'interview et tout là?
J'adore.
Donc on va commencer là. Le sujet du coup c'est la figure du guerrier dans les œuvres jeunesse.
Oui, effectivement.
Et du coup, quelles sont les œuvres de fiction mettant en scène des figures de guerriers que tu as vues, lues quand tu étais jeune et moins jeune, adolescent, jeune adulte?
Alors, celles qui présentent des figures de guerriers que j'ai regardées quand j'étais enfant, c'est principalement Fairy Tail. C'est pas ce que je qualifierais comme une grande œuvre, mais c'est ce que je regardais quand j'étais petit. Et donc là, ça présente clairement la figure du guerrier à travers beaucoup de personnages, mais notamment le personnage principal, Natsu, qui est un personnage typique de shonen, donc un garçon qui mange beaucoup, qui est jamais concentré, pas très sérieux, qui est très puissant, qui se bat, qui a des valeurs telles que l'amitié, la loyauté, etc., qui sont des valeurs qui reviennent souvent dans les shonen. Et ensuite, il y a des œuvres que j'ai regardées plus tard, comme les films de Tarantino, qui présentent également des figures guerrières, avec beaucoup de violence, mais c'est pas du tout dans le même registre que le shonen. C'est différent, on est sur un truc plus réaliste et des codes différents. Le Fairy Tail, ça vient s'inscrire dans tous les codes shonen, etc. On retrouve la même chose que dans One Piece, Naruto, pour beaucoup de valeurs, etc. Alors que Tarantino, c'est complètement différent.
C'est le cinéma américain.
C'est le cinéma américain, voilà. Donc, on est sur des codes qui sont bien différents. Déjà, on passe de animation à filmé, etc. Il y a des touches d'humour comme dans Fairy Tail, mais on est quand même sur un truc beaucoup plus sérieux et à regarder plus tard. Donc, c'est une figure guerrière aussi, mais c'est différent.
Il y a de la baston.
Il y a toujours de la baston. C'est pareil, c'est comme dans les films de Martin Scorsese, il y a de la baston. Et surtout sur Martin Scorsese, c'est des hommes qui se battent. À Tarantino, il y a des femmes, même si ça reste quand même une catégorie qui est dominée par les hommes. Les guerriers dans les films Tarantino, c'est quand même beaucoup d'hommes, même si on a eu quelques exemples comme dans Kill Bill ou Jackie Brown, où c'est des femmes. Et par exemple, dans d'autres cinémas, comme celui de Martin Scorsese, c'est que des hommes. Et d'autres réalités américaines qui mettent en scène que des hommes.
Du coup, ces représentations masculines, guerrières, plus ou moins baraquées et tout, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Enfin,
je pense que ça a quelque chose d'hyper satisfaisant, à mon avis. Déjà, dans le torrent de violence qui déverse, souvent, je dirais même quasiment tout le temps, ils agissent au nom du bien ou au nom d'une vengeance. Alors dans les films Tarantino, ça va être beaucoup la vengeance, c'est un thème qui revient énormément dans ses films, voire c'est quasiment tout le temps ça, bon, pas toujours toujours, mais ça revient vraiment beaucoup. Et ensuite, dans Fairy Tail, par exemple, ils vont se battre pour la bonne cause, ils vont se battre parce qu'on a attaqué leurs amis, pour sauver leur famille, etc. Donc c'est toujours des nobles causes. Le réalisateur fait en sorte que on s'attache à la cause en fait du guerrier. Et par exemple dans les shonen, on est vraiment souvent sur une défaite du personnage principal face à l'antagoniste de l'arc. Et le personnage, le guerrier qu'on suit, le protagoniste se relève dans un dernier élan parce qu'il réentend la voix de sa mère, de son père, de ses amis, etc. Ou qui voit un de ses camarades au sol et dans un dernier élan de courage, il se relève de ce qu'aucun humain aurait pu supporter. Et de manière hyper charismatique en plus, toujours. Et de manière hyper impressionnante. Et il va réussir à vaincre l'ennemi. Donc dans quelque chose qui est hyper satisfaisant, qui est hyper galvanisant pour le téléspectateur. Et ensuite, dans Tarantino, je dirais plus que c'est un déversement de violence qui est vraiment bien fait et bien amené par le réalisateur. C'est un de ses points forts. Moi, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup son cinéma. Il sait mettre en œuvre la violence sans l'exagérer, sans la rendre récurrente, à mon goût en tout cas. Il est vraiment bon dans la manière de mettre la violence en scène sans faire trop, mais en faisant suffisamment quand même. C'est-à-dire que c'est ultra satisfaisant la manière dont le protagoniste va venir se venger pour la plupart du temps. Ensuite, enfin, comme dans Fairy Tail, le réalisateur il nous a amené à en pâtir en fait pour le personnage principal et presque à rendre sa vengeance légitime. Dans les films de Tarantino, on n'a pas un grand discours sur les méfaits de l'échelonnage de la violence, etc. On suit uniquement quand même dans beaucoup de films, je pense à Kill Bill, je pense à Django, principalement, on suit des parcours de vengeance qui sont pas du tout critiqués. Alors que dans d'autres œuvres comme The Last of Us, on a une grosse critique de l'échelonnage de la violence, etc. Là, pas du tout. Là, c'est vraiment le guerrier qui se venge de manière hyper violente, hyper satisfaisante, et c'est vrai que ça marche aussi.
Tu parlais justement de compatir avec ces héros guerriers masculins et de t'identifier à eux. Et du coup, pour le côté héros incarnant des valeurs morales, du bien contre le mal, est-ce que tu penses que ça a des effets de t'identifier à ces personnages?
À mon avis, la figure guerrière, elle procure un sentiment de. Un peu un sentiment de toute puissance. Je vais m'expliquer. Souvent, à la conclusion du combat final, qui lui-même conclut l'œuvre, ou l'arc, se termine par la victoire du protagoniste. Donc, ça. Souvent, une victoire qui est compliquée, enfin, forcément, qui est. On en doute rarement, mais l'œuvre est faite pour que pendant un moment, pendant le combat, on se dise ah, peut-être que machin. Et ça rend la victoire encore plus satisfaisante. Parce qu'en fait, le héros, il va revenir de tellement loin, il va réussir à gagner sur quelque chose d'inimaginable. Et en fait, ça procure. C'est un personnage auquel on s'était attaché. Et je trouve que ça procure vraiment un sentiment de toute puissance, de. En fait, tout n'est qu'une question de volonté. Tout est une question d'entraînement. Surtout dans les animés, les shonen, ils aiment bien mettre en œuvre des trucs hyper exagérés. Et quand t'es élevé au shonen, à mon avis, tu peux vachement en fait te dire que tout n'est qu'une question de volonté, que on peut en gros soulever une montagne si on s'entraîne tous les jours, et que c'est le truc d'une vie. Et on a vraiment ce truc galvanisateur de aussi de l'amitié, de la famille, etc. Et ce truc qui vraiment qui galvanise quoi et qui à la fin te met dans un état de toute puissance.
Est-ce que tu penses du coup que le fait que le héros guerrier masculin domine son environnement par sa violence et sa brutalité joue et a une influence dans la représentation de l'usage de la violence chez les jeunes
Oui,
garçons?
clairement. Les personnages principaux, t'as raison, ils usent quand même souvent, c'est jamais des génies, quoi. Enfin, dans certaines œuvres, mais là on parle de la majorité, c'est quand même souvent des personnages hyper puissants, qui brillent pas forcément par leur intelligence. D'ailleurs, souvent c'est même l'inverse, pour que ce soit un petit peu drôle et humoristique. Et je pense que ça joue vachement, c'est clair, de ouf. En fait, pour beaucoup, l'important c'est d'être le plus fort. Et dans les animés, c'est ça, dans les gros films blockbusters, c'est ça. Et en fait, du coup, quand t'es petit, que tu regardes et que t'es élevé avec ce genre de, avec cette culture, le plus important, ça devient d'être fort, en fait, et de dominer son entourage. Après, quand tu grandis, tu commences à réfléchir un peu autrement, mais basiquement, quand t'es élevé dans ça, ouais, t'as un truc de vouloir être le plus fort. Vouloir être le plus beau, vouloir être le plus fort, parce que souvent, ils sont beaux, en plus. Il y a des standards de virilité, de machin... que tu commences à assimiler parce qu'ils les respectent tous et qu'ils sont badass, etc. Donc à mon avis, forcément, ça joue.
Moi, je me souviens, tu vois, dans la cour d'école, on jouait, tu sais, moi, c'était Dragon Ball, les trucs comme ça, et on jouait ensuite à refaire oui. les dessins animés dans la cour d'école. Ouais. Et je me souviens qu'on cherchait beaucoup à se dominer physiquement, on se faisait des bagarres entre garçons. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que t'as...
Ouais, aussi, et puis quand on est petit, on se rend pas forcément compte. Et moi, je sais, quand j'étais petit, j'étais violent parce que je me rendais pas compte. Et que je tapais les autres. Alors, j'étais pas non plus un malade. Mais je sais que j'avais plus tendance à être violent que maintenant. Parce que maintenant, je suis plus grand, donc on se contrôle, voilà. Et avant, on faisait aussi des jeux où on se chamaillait vachement, on se bagarrait et tout. C'était quand on était petit. Et tu fais pas attention forcément. En fait, tu sais pas quelle violence est grave forcément. Enfin. Tu sais que c'est mal, mais bon, la limite, elle est floue. Et puis, quand est-ce que... Enfin, toi, tu voulais pas être méchant, donc voilà. Et le plus important, ça reste de devoir dominer autrui, en fait. Donc, voilà. Effectivement, nous aussi, on se bagarrait un peu, etc. Et puis, le truc de dominer, mêlé aux limites floues de la violence, et puis au fait qu'on n'est pas forcément hyper empathique, vachement ressenti sur nous quand on est petit, ouais, c'est un truc qu'on... Moi, je retrouvais vachement aussi.
Comment t'expliques le fait qu'il y ait une surreprésentation dans la fiction pour la jeunesse et pour les ados et pour les jeunes adultes, voire pour les adultes, de ces figures de héros, guerriers, masculins, badass, alors, leaders, dominants.
À mon avis, il y a plusieurs raisons. Je vais me répéter sur la première raison qui me vient à l'esprit, c'est que c'est hyper galvanisateur. C'est excitant, c'est galvanisant, c'est satisfaisant. À mon avis, c'est une des premières raisons. Ensuite, la deuxième réponse, c'est que ça plaît, ça marche. Donc, les gens, ils veulent faire des sous, donc ce qui marche, on le fait, quoi. Pour l'instant, c'est un truc qui marche toujours et on change pas une équipe qui gagne, donc qui continue toujours à être produit. Et je pense que la dernière réponse, c'est que c'est rassurant. C'est hyper rassurant, déjà, on le voit partout, ça change pas. C'est les codes qu'on connaît. Quand tu rentres le soir, que t'es fatigué et tout, tu te cales avec un plaid, il fait froid dehors, etc. Tu regardes ça, tu manges, je sais pas, un petit McDo en bail comme ça, c'est rassurant de ouf, tu vois. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Même là, je vais plus te parler de quand j'étais petit, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent regarder des Marvel. Alors là, une grosse figure prédominante du guerrier. Masculin souvent, même si je sais que maintenant j'essaie de faire plus des trucs avec des meufs, mais bon, à la base c'est quand même vachement masculin. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils adorent regarder ça parce que en gros c'est rassurant, que c'est cocooning, etc. Moi c'est pas trop, moi je trempe pas trop là-dedans, j'avoue, mais c'est parce que moi par exemple j'adore le cinéma. Il y a plein de gens qui sont pas fans du cinéma en lui-même, qui regardent juste des films pour se détendre, etc., qui iront jamais se mettre dans des œuvres compliquées, complexes, qui. Peut-être des fois sont un peu désagréables, etc. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose de tranquille, quelque chose qui va les poser, de rassurant, parce que c'est pas des fans de cinéma, des cinéphiles. Donc, eux, c'est ça qu'ils aiment bien regarder, quelque chose qui va les rassurer, les mettre dans une zone de confort. Et je pense que c'est aussi une des raisons quand même principales de la perpétuation de ces codes et ce guerrier masculin prédominant. Et à mon avis, si on a toujours un guerrier masculin, c'est parce que quand on est un homme, on s'identifie plus facilement à un homme. Et globalement, les gens qui ont les sous pour faire les films, pour faire les œuvres, c'est des hommes. Donc ils ne vont pas chercher midi à 14h, ils font des hommes. Ceux qui regardent les séries, c'est les hommes. Enfin, c'est... Donc du coup, on fait des séries pour les hommes, par les hommes.
Voilà. C'est une sorte de boys club.
Exactement, oui, c'est une sorte de boys club, je pense, oui. Bah, on parlait de la complicité masculine il n'y a pas longtemps,
mais oui, dit,
c'est une espèce de complicité masculine à grande échelle, je pense.
Du coup, la proposition de fiction de différentes natures est largement orientée sur des représentations de...
Ouais, à mon avis, tant que...
héros masculins dominants.
Tant que les hautes sphères de ces industries-là sont dominées par les hommes, à mon avis, on va quand même vachement galérer à sortir d'un truc pour les hommes, en fait. Et je pense que la solution pour qu'on sorte de ce truc-là, c'est qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient, à qui on donne des sous pour faire des films. Mais bon, quand t'as un homme, les hommes, ils ont envie de donner des sous aux hommes parce que la complicité masculine, tout ça.
Et du coup, quels sont les rôles des femmes dans ces fictions mettant en scène un personnage principal de guerrier masculin?
C'est un rôle toujours secondaire. Étant donné que le protagoniste est un homme, c'est toujours des personnages secondaires, les femmes, globalement, à part quelques exemples, mais c'est vraiment tellement... En fait, ils sont tellement infimes qu'on peut vraiment parler d'une majorité, et quasiment écrasante, où c'est que des protagonistes hommes, et donc les femmes, elles servent en fait au développement du personnage. Et je pense que, inévitablement, quand t'es nourri avec cette culture audiovisuelle, ou même pas que audiovisuel, les mangas c'est à lire et ça raconte à peu près la même chose pour les shonen. En fait, la femme elle va servir au développement de l'homme, donc à mon avis, quand t'es un petit garçon, c'est ce que tu vas assimiler. Qu'en fait, inconsciemment, les filles elles servent à ton développement personnel, que elles ont pas en fait. Il y a un truc un peu à mon avis de elles ont pas de conscience propre en fait, parce qu'elles sont toujours là pour servir au développement personnel du héros masculin. Et donc, en fait, toi, t'assimiles que les filles, elles sont là pour que toi, tu te développes personnellement, pour ton histoire, etc. Et en fait, t'imagines même pas qu'elles ont elles-mêmes leur histoire, en fait, avec celle, le protagoniste de leur propre vie. Mais, Mais c'est un truc, en fait, que t'as pas été habitué à assimiler, parce que pour toi, les filles, c'est celles qui vont toujours... ne pas être un personnage principal, celles qui vont jamais être un personnage principal, celles qui vont seulement être un élément secondaire, même s'il est important, même s'il est primordial, il reste secondaire. Et il est là pour que toi, tu te développes, pour ton développement personnel.
Très bien. Je pense que nous avons épuisé les questions, nous avons fait le tour un petit peu des questions
que j'avais posées.
Donc nous allons conclure cette émission. Un petit mot sur la conclusion.
Regarder d'autres choses, surtout montrer aux enfants d'autres choses. Parce que c'est quand on est petit qu'on est une éponge et qu'on assimile tout. Donc il faut regarder, il faut montrer de tout aux enfants. Je crois que Disney essaie de faire des trucs différents en ce moment, je crois. Des trucs avec... genre en mode où c'est pas des garçons, les personnages principaux et tout. Je me demande même s'il n'y a pas eu des dessins animés sur les trucs transgenres et tout. Montrer des trucs différents, je pense. C'est important de tout montrer, en fait. Enfin... de montrer autant de trucs avec des personnages principaux garçons que filles, et c'est de pas montrer tout. Enfin, c'est dur en fait, parce qu'on est quand même dans une société où ils seront toujours. Au bout d'un moment, en fait, ils seront très vite mis face à une flopée d'œuvres sexistes, etc. Mais bon, je suppose qu'il faut essayer quand même de leur montrer des trucs différents.
Merci de t'être prêté au jeu de l'interview.
Oui, pas de souci, c'est un plaisir.
Petit projet peut-être pour la prochaine fois.
Peut-être. Tu veux que j'annonce le projet?
Ça serait cool.
Peut-être petit projet sur le mal sigma et les réseaux sociaux, notamment TikTok.
Avec du coup les influenceurs mal alpha qui
ouais.
promettent aux jeunes hommes
oui, et puis la classification,
de gagner de la virilité.
La classification de puissance, oméga, bêta, alpha... Sigma, parce que les Sigma ils sont très connus, mais la classification entière avec les sous-catégories, etc., c'est un peu moins connu. Et mais du coup, c'est tout autant, c'est un truc de ouf, c'est de la merde.
T'es malade.
Ah, vous m'avez fait découvrir la dernière fois l'existence du mâle sigma. Que
ouais.
J'ignorais, j'étais resté à alpha. Que des lettres de l'alphabet, bon, on va essayer d'explorer ça, de classifier un petit peu, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et comment ça marche tout ça.
Pas de soucis.
Bon. En vous laissant pour la suite des programmes.
Ciao. Moi, je vous dis au revoir.